Les voix du livre. Une émission proposée par Fanny De Citre, de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers, Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et Claire Garand, biographe chez Memorialiste.fr. Vous êtes bien sur Bac FM. Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Alors, nous accueillerons aujourd'hui Cécile Coulon, romancière, nouvelliste et poétesse, qui vient de faire paraître Une bête au paradis aux éditions de l'Iconoclaste. Alors, nous écouterons son interview tout à l'heure, hein, en point d'orgue de l'émission. Ce sera un petit peu notre cadeau de Noël aux auditeurs. Et comme une partie du plaisir est dans l'attente, hein, quand on offre un cadeau, eh bien, le nôtre se fait un peu attendre. Ça le rend encore meilleur. Car cette émission est bien sûr consacrée au seul cadeau valable en cette période de Noël, le livre.
Bien sûr.
Forcément. Moi, je n'offre que des livres, d'ailleurs. Voilà, comme ça, c'est facile. Hein. Et ça dure longtemps, les livres. C'est ça qui est bien. Mais la grande question métaphysique, c'est lequel offrir ? Parce que c'est pas si facile. Alors, aux voix du livre, nous n'avons peur de rien en matière de lecture. C'est pour ça que nous allons commencer tout de suite par le plus délicat. Quel roman offrir aux adolescents ? Eh bien oui, parce que c'est pas facile. Hein. Déjà, pour les adultes, c'est pas de la tarte, mais pour les adolescents, c'est encore pire. Et pour répondre à cette question délicate, eh bien, je me tourne vers notre spécialiste, Arthur, l'ado accro au livre. Alors Arthur, vous êtes allé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui avait lieu, vous pouvez me rappeler les dates, je me souviens plus.
Du 27 au 2 décembre 2019.
Voilà, donc c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Et vous avez pu rencontrer vos auteurs favoris, faire le plein de nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
À ça, pour avoir rencontré des auteurs favoris, j'en ai vu plus de 30 et j'ai fait dédicacer plus de 50 romans.
Oula, effectivement.
Donc ça fait pas mal. Je circulais dans le salon avec ma valise de livres et il y avait beaucoup de monde, donc c'était très difficile, mais c'était vraiment génial.
Alors, une valise quand même, hein.
Ah oui, oui.
Ouf.
C'était facile à l'entrée, étonnamment.
Oui,
j'imagine. On m'a laissé passer.
Oh, c'est que des livres, ça va, vous pouvez rentrer. Et je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer...
Marion Muraille, c'est ça. Une soirée privée, cocktail privé, où elle nous a décrit son travail d'auteur. Donc c'était vraiment génial.
Oui, ça valait vraiment le détour. Hein. Alors justement, parmi tous ces livres, hein, ce véritable flot de livres que vous avez ramené dans votre valise, vous avez sélectionné pour les auditeurs... Trois romans, quand même, ça n'a pas dû être facile hein, parmi l'ensemble.
Hein, ah oui, oui.
Qui vous ont particulièrement, eh bien, je crois, un peu effrayé, mais dans le bon sens.
Ah oui, et oui, ce mois-ci, trois romans parus en octobre qui envoient du lourd. Entre Deadline,
c'est un le poids dans la valise hein, qui envoie du lourd.
Oui. Ah oui, oui, aussi. J'avais une crampe au bras hein, après.
Ça ne m'étonne pas.
Entre Deadline, un livre addictif sur la dépendance, et Tangrove, un thriller à glacer le sang, vous ne dormirez plus. Oui, je sais, Halloween est passé depuis longtemps, mais c'est bien de rester éveillé en décembre pour ne pas geler. Surtout qu'il fait très froid en ce moment.
Ah bah oui, non mais c'est bien pour la nuit de Noël, parce que bah il faut rester éveillé hein, pour avoir les cadeaux le lendemain matin. Donc là, vous nous proposez de passer une nuit un petit peu, enfin pas seulement blanche, mais un peu rouge donc.
Ah oui, et dans la même lignée, avec des créatures démoniaques, je vous parlerai de ceux qui ne peuvent pas mourir, ou cette fois-ci, nous remontons un peu le temps pour aller en 1887. Bref, il est grand temps que je vous présente ces trois coups de cœur à mettre absolument sous le sapin de Noël de vos enfants ou adolescents.
J'ai hâte. Hein.
Deadline, c'est un roman addictif d'Arthur Tenor qui aborde le thème de l'addiction, justement. Nous allons suivre Aurélien, un jeune adolescent qui travaille moyennement et qui aime beaucoup les jeux vidéo. Un jour, il décide de faire un tour du côté du dark web et il y trouve un livre assez étrange qui l'intrigue énormément. Le premier chapitre ne coûte que 12 centimes. Aurélien décide donc de l'acheter. Cependant, ce livre numérique est tellement similaire à sa vie qu'il est un peu effrayé.
Oui, c'est vrai que ça doit faire un peu bizarre. Hein.
Ah oui, très très. Mais incapable d'arrêter sa lecture, il se rend compte que certaines choses qui arrivent dans le roman arrivent aussi dans la vie réelle. Comment Aurélien va-t-il s'y prendre pour arrêter ce funeste manège ?
C'est hyper flippant, oui.
Oui, oui, c'est vraiment très étrange comme roman, mais c'est vraiment flippant et effrayant.
Ouais, on aime ça, ça tombe bien.
Et du coup, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman original et aussi prenant que le livre d'Aurélien. J'ai juste adoré. Je conseille à tous les parents qui m'écoutent d'acheter ce livre à leur ado si il ou elle est fan de jeux vidéo. Je suis sûre que ça sera un coup de cœur comme pour moi.
Il doit y avoir pas mal de jeunes qui aiment les jeux vidéo.
Oui, je crois que c'est assez
voilà,
commun.
C'est un critère qui va remporter l'adhésion.
Ouais. Passons maintenant à Tangrove de Cécile Guyot, un roman encore plus sombre que le précédent.
Alors, ça s'écrit comment, Tangrove, par curiosité?
T-H-O-R-N-G-R-O-V-E.
D'accord. Non, je me penche sur la le titre
voilà
de mon voisin. D'accord. Pardon. Oui, non, c'est toujours intéressant parce que j'avais pas bien compris le titre. Oui, alors d'accord. De quoi s'agit-il?
Alors cette fois-ci, il n'est plus question d'hyperréalisme mais plutôt d'esprit. Oula. Madeline est une jeune fille qui vient de déménager dans une ville assez étrange, Wakgrove. Elle ne connaît personne et débarque en plein milieu d'année, ce n'est donc pas très facile pour elle de s'adapter.
Oui, puis ça c'est une situation que souvent les ados vivent justement difficilement quoi. Donc,
oui.
Ça va parler à beaucoup de monde.
Lorsqu'elle prend connaissance de la légende qui abrite le village, elle va commencer à enquêter dessus avec son nouvel ami et sa petite sœur, Meadow. D'après cette sinistre légende, deux sœurs jumelles seraient mortes dans un cabanon isolé de la ville, l'une tuée par l'autre.
C'est sympa les légendes dans le coin, hein. Ça change de la Belle au bois dormant en même temps, bon.
Le problème, c'est que ce mythe pourrait bien se reproduire si Madeline ne fait pas plus attention.
Oula.
Je vous l'avais dit, c'est un roman au résumé vraiment flippant.
Oui.
Je l'ai lu en deux jours à peine, tellement il m'a plu. Cependant, attention à ne pas le lire le soir.
Ah, oui, parce qu'après, effectivement, on ne dort plus, on fait des cauchemars et on se réveille toutes les 5 minutes.
Exactement.
Ouf.
Ça a l'air le soir de Noël, quoi.
Oui, voilà. Ça promet. Et donc,
à présent, le troisième et dernier roman que je vais vous présenter se passe dans le passé, en 1887. Dans Ceux qui ne peuvent pas mourir, embarqué avec Gabriel et Rose à bord d'une aventure fantastique peuplée de créatures en tout genre. Gabriel est un chasseur qui a pour mission de capturer les monstres qui peuvent nuire à la population. Rose, elle, est une jeune fille que Gabriel a pris sous son aile suite au décès de ses parents.
Donc c'est des monstres qui existent, dont tout le monde reconnaît l'existence, ou c'est plus ou moins caché?
Oui, c'est par exemple des harpies, des...
Oui, des petites
voilà,
choses
c'est ça, exactement.
Oui, je vois, d'accord.
Du coup, ils vont tous les deux se rendre dans le Finistère pour capturer une étrange entité qui fait des ravages dans une petite ville.
Dans le Finistère?
Ouais.
Non, mais parce que c'est pas très loin de chez moi, le Finistère, donc je suis ravie d'apprendre qu'il y a des harpies dans le Finistère. Là, je me méfierai la prochaine fois que j'irai là-bas, oui.
Mais je crois que là, c'est un loup-garou.
Ah, c'est un loup-garou, oh là là, d'accord.
C'est pas beaucoup mieux.
Non.
Alors, du coup, est-ce qu'ils réussiront à arrêter la créature avant qu'elle ne fasse plus de morts? Un duo de choc pour un livre au top. Les descriptions sont superbes et la plume de l'autrice est très fluide. Un roman accessible aux adolescents qui aiment les enquêtes et le fantastique. Encore un livre pour Noël. Eh bien, voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous aurez trouvé parmi mes choix le ou les livres qui vous tentent. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur mes pages Facebook et Instagram, l'ado accro au livre. À très vite, joyeux Noël, bonne année, et on se retrouve en janvier.
Ah bah oui. Alors, moi justement qui aime beaucoup les romans fantastiques, jeunesse, eh bien, je crois que je vais me laisser tenter l'histoire du loup-garou dans le Finistère. C'est, voilà, pourquoi
pas. Ça a l'air pas mal, ouais.
Oui.
C'est vraiment très bien.
Surtout l'enquête, le côté enquête, ça a l'air plutôt sympa.
Moi, j'ai une petite question. Tu lis combien de livres par semaine, par mois?
Maintenant que je suis passée
par jour,
faut
compter par jour avec Arthur.
Ah, c'est maintenant. Hein.
Non, c'était quand il était jeune.
C'est ça. Parce que l'année dernière, j'avais le temps de lire. Cette année, un peu moins parce que je suis en seconde et...
Eh oui.
Bah, faut travailler, quoi.
C'est ça. Et je rentre beaucoup plus tard et je pars beaucoup plus tôt de chez moi, donc je suis un peu fatiguée. Mais du coup, je lis quand même 3 livres par semaine, environ.
Ouais. C'est tout.
Bonne moyenne.
Là. D'accord. Tout fout le camp. Bah oui, non, c'est pas mal quand même. Donc moi, je dis merci beaucoup à Arthur pour ses suggestions et j'invite les auditeurs à aller consulter vos comptes Facebook et Instagram, donc l'ado accro au livre. Pourquoi? Parce que vous écrivez beaucoup de chroniques, donc ils trouveront d'autres suggestions dans tous les genres, pas seulement des genres effrayants. Il y a
vraiment tous les genres.
Il y a de tout. Il y a de tout. Donc c'est vraiment la caverne d'Ali Baba pour les adolescents, mais pour les autres aussi, comme moi par exemple, parce que j'avoue que je trouve que la littérature pour adolescents convient aussi très bien aux grands, voilà, ou pour ne pas dire les vieux comme moi, mais donc voilà, un peu moins jeunes, pour les un peu moins jeunes. Alors, après cette petite frayeur, nous allons maintenant faire une petite pause musicale pour donner aux auditeurs un avant-goût du roman de Cécile Coulon, puisque nous allons écouter maintenant l'une des musiques qui ont présidé à l'écriture de son roman. Elle écrit en musique, elle nous l'expliquera tout à l'heure. Donc maintenant, nous écoutons Hurt de Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Eh bien, c'était donc Hurt de Johnny Cash, vous l'aurez reconnu, hein, c'est donc l'une des musiques qui ont inspiré le rythme des phrases du dernier roman de Cécile Coulon, Une bête au paradis. Vous êtes bien de retour dans les voies du livre sur Bac FM, émission spéciale Noël avec, ben maintenant, on a écouté tout à l'heure les suggestions de romans jeunesse, et bien maintenant, les suggestions de romans pour adultes. Je crois qu'en effet, ceux dont vous allez nous parler, Fanny, ne sont peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Et ils vont bien avec Hurt de Johnny
Exactement,
Cash.
Oui, c'est approprié comme, comme musique.
Tout est calculé.
Vous êtes forte. Alors, le premier roman, c'est La vie en chantier. Donc, c'est oui. le dernier roman de Piet Fromm, qui est sorti pour la rentrée littéraire aux éditions Gallmeister donc cette année. Alors, déjà, deux petites choses. Moi, je suis déjà fan de Piet Fromm. Et je suis fan des éditions Gallmeister. Donc, bon. Je vais pas être très objectif, voilà, sur
cette. Non, mais le but, c'est pas d'être objectif,
chronique.
Hein, c'est de faire partager son plaisir. Donc, au contraire,
voilà,
c'est
bon,
parfait.
Bah, j'espère que je vais y arriver. Deux petits mots sur les éditions Gallmeister.
Oui, parce que c'est un éditeur quand même particulier.
Oui. Alors, c'est un éditeur qui a créé cette, donc c'est Olivier Gallmeister, qui a créé cette maison d'édition en 2005. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature américaine.
Voilà, comme ça déjà, ça pose un petit peu le cadre.
Voilà. Disons qu'il y a peut-être une ligne éditoriale qui va être... c'est des romans qui sont toujours très ancrés dans leur environnement. Donc on va passer du Texas à l'Alaska, jusqu'au Montana, À chaque fois, c'est des histoires qui sont voilà, vraiment ancrées dans leur environnement. La nature, est, souvent sauvage, devient un personnage à part entière du roman. Et c'est le cas dans tous les livres en fait, de Pete Fromm, qui est un auteur du Montana.
Oui, qui est marqué par le lieu où il vit, en fait.
Exactement, ouais. Et puis, pour finir sur les éditions Gallmeister, c'est toujours des histoires génialissimes. Enfin, j'ai jamais été déçue encore.
C'est vraiment des... Oui, on le retiendra.
Voilà, c'est vraiment des livres à découvrir pour pouvoir voyager, en fait, tout simplement. C'est, je crois, un début de la lecture et de la littérature.
Tout à fait.
De voyager tout en restant dans son canapé.
Oui, l'Alaska dans son canapé ou le Montana dans son canapé, c'est pas mal.
On n'a pas à prendre l'avion, comme c'est idéal. Alors, Pete Fromm, moi, je l'ai découvert avec Indian Creek, donc c'est son premier livre.
Qui a eu d'ailleurs pas mal de succès.
Oui, ouais, ouais. Et puis à juste titre, parce que c'est un roman, juste en deux mots, c'est un adolescent qui va surveiller des œufs de saumon dans les rivières du Montana, dans une réserve naturelle. Et justement, moi, à la fin de ce livre, j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir voyagé dans le Montana, voilà, d'avoir découvert cette nature sauvage, ces montagnes, ces rivières, c'est
magnifique.
Et là, avec ce dernier roman, on est encore dans le Montana.
Il s'en passe des choses dans le Montana.
Mais tout à fait.
ça commence plutôt bien.
Oui, ça commence plutôt bien. Le livre commence plutôt bien. On a un couple, donc Taz et Marnie, qui sont très amoureux, qui sont très beaux et qui sont en train de retaper leur petite maison. Ils sont en plein travaux. Marnie tombe enceinte. Jusque-là, tout va bien, sauf que malheureusement, elle va décéder pendant l'accouchement.
Oui, là, c'est beaucoup moins bien.
Ça se passe beaucoup moins bien. Donc, on peut s'attendre à un roman complètement déprimant, complètement déprimé, mais c'est évidemment tout l'inverse. Avec Pete Fromm, voilà, on n'est jamais dans le sentimentalisme, dans le pathos. C'est au contraire un livre qui est plein d'espoir, qui est plein de tendresse, et c'est sur la reconstruction de cet homme, donc Taz, qui se retrouve dans cette maison complètement en travaux avec ce petit bébé. Donc c'est pas du tout le plan qui était prévu.
Ah ben non, ça c'est sûr.
Voilà, comment il va faire, comment il va s'en sortir, comment il va passer, comment il va réussir à surmonter ce deuil en fait.
Donc c'est plutôt le roman comment on se reconstruit, comment on réagit. Une force de vie qui l'anime.
Exactement, c'est un roman sur le deuil. Hein, ça reste quand même triste. On passe vraiment par des sentiments très forts. Mais c'est toujours ça avec Pete Fromm. C'est de l'espoir, c'est même de l'humour, très souvent.
C'est l'expérience humaine qui parvient à surmonter toutes
ouais,
les
et
difficultés.
Et je trouve que Pete Fromm, il est toujours très juste dans la description des sentiments humains. Il est toujours en train de chercher la vérité. On n'est jamais dans le... Enfin, c'est jamais cucu la praline. Voilà, c'est...
Oui, non, mais c'est vrai. Je pense que c'est important de le dire parce que sur cette thématique, il y a quand même eu beaucoup d'ouvrages qui sont un petit peu... Bon,
ouais, un peu lourd. Quoi,
voilà. Et puis, bon, larmoyant. Mmh. Et là, c'est
là,
pas
c'est
du tout ça.
Là, c'est tout en finesse. C'est vraiment... c'est un homme... quand on le voit, il est très grand, moustachu, très bourru. Et il a une finesse dans son écriture qui est...
La finesse de la moustache.
Impressionnant.
Donc une belle lecture,
ouais, une
pas
très
du
belle
tout
histoire.
Au
non,
contraire.
Non, non, non. J'insiste là-dessus quand je le conseille, c'est pas du tout, c'est pas triste en fait. On en ressort pas triste.
Ça
on
donne
en ressort,
la pêche, en fait, presque.
Oui, 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 mais vraiment.
Donc allons-y voilà. Pour Noël. Vous voulez faire du bien aux gens que vous aimez. Offrez-leur ce roman. Difficile de passer au suivant.
Ouais. Je cherche la transition, il n'y en a pas.
Pas de eh bien, on peut dire que ça n'a rien à voir,
ça
par exemple.
Ça n'a rien à voir, exactement. Je vais vous parler maintenant d'un livre qui s'appelle Cadavre exquis, de Agustina Basterica.
Alors là, on n'est plus du tout dans le même domaine
non.
Et on n'est pas non plus dans la même perspective. C'est-à-dire que c'est peut-être plus un roman qui a un message à faire passer quelque part.
Exactement, ouais, ouais. Et déjà, c'est un roman qui mêle plusieurs genres, je trouve. On est à la fois dans le roman d'anticipation, presque de science-fiction. On est dans le roman gore, très souvent.
Et puis oui, il y a un petit côté dystopique quand même
oui,
dans
oui,
ce
bah,
roman.
Oui, complètement, complètement, ouais. Et puis on reste dans une fiction traditionnelle, voilà, c'est une narration classique. Alors, l'histoire, c'est une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, une société où les animaux ont complètement disparu.
C'est ça la petite différence
voilà.
Qui fait
tout le charme du roman. Il y a un virus en fait qui a décimé quasi la quasi-totalité des animaux. Donc les humains se retrouvent sans viande à manger, à consommer.
Ah, c'est terrible.
Et on a un gouvernement, des scientifiques qui vont bien insister sur le fait que la viande est essentielle pour notre survie et qu'on a besoin de manger de la viande. Donc ils ont la bonne idée de modifier génétiquement l'humain pour en faire du bétail, tout simplement.
Il fallait y penser.
Quelle idée brillante.
Bien sûr.
Et donc, on va se retrouver... c'est pour ça que, quand je conseille le livre, là, je précise que c'est quand même pas évident. Les 30-40 premières pages sont un peu dures à passer. Parce qu'on a la description des abattoirs.
Voilà, oui. J'ai lu le bouquin.
Ouais. Voilà, il faut avoir vraiment l'estomac solide. Moi, je suis assez sensible, mais j'ai quand même persévéré.
Faut pas manger une côte de bœuf en même temps, quoi.
Non,
c'est
non.
Ça, le truc.
Mais une fois qu'on a passé, voilà, cette description qui est assez terrifiante.
Oui, c'est le mot.
Le roman, il offre quand même une réflexion très intéressante.
Tout à fait.
Sur notre rapport à l'animal, sur notre consommation de viande. Mm-hmm. Et puis aussi, au-delà de ça, jusqu'où l'être humain peut aller. Qu'est-ce qu'on peut accepter sous couvert de... Enfin, c'est parce que le gouvernement le dit, parce que les scientifiques le disent. Bon, bah d'accord, on accepte et on se mange entre nous. Voilà,
voilà, mangeons-nous entre nous. Parce que
le
cannibalisme, c'est sain, ça fout être le sang. Est-ce que vous êtes devenue végane après cette lecture?
Non, je consomme toujours de la viande, même si je fais très attention.
Non,
voilà,
je plaisante un petit peu. Est-ce que l'auteur est végane?
Eh ben, je sais pas. C'est une bonne question.
Non,
mais je la soupçonne, oui, d'être végane, parce que c'est sûr que ça dégoûte. Ça dégoûte complètement. Et ce qui est fou, c'est que...
Une petite brochette
sortant. ce qui est intéressant, c'est que ça nous dégoûte. On voit justement des humains subir ce que des animaux, en fait, subissent en abattoir. Et ça nous perturbe parce que c'est des humains.
Ben oui.
Enfin, je trouve ça intéressant, justement. On a tous vu les images des abattoirs, où il se passe des scènes atroces. Voilà, ça questionne sur tout.
C'est sûr que ça fait un petit peu sortir de sa zone de confort, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire que ça fait un petit peu réfléchir sur des choses auxquelles on réfléchit pas habituellement.
Bah après, c'est des sujets dont on parle beaucoup, mais je trouve qu'elle a eu un angle intéressant pour en parler.
Bien puissant, comme angle.
Oui.
Donc, à conseiller à tous nos amis véganes.
Mais oui.
Et aux autres aussi.
Bien sûr. Et à côté de ça, juste pour préciser, l'histoire est très intéressante également. On n'est pas que sur une description des abattoirs.
Non,
voilà,
parce que
l'intrigue
est... Passer les 30 premières pages, peut-être que vous pouvez en dire quelques mots.
En fait, on a un homme qui travaille dans ces abattoirs, justement, et qui un jour se voit offrir une femelle. Donc, ils appellent ça des femelles.
Ah bah oui, on va pas appeler ça une femme, forcément.
Non, c'est plus dur à manger.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, il va recueillir cette femelle chez lui dans une chambre froide pour la consommer plus tard.
Bien sûr.
Et il va se, il y a des sentiments un peu ambigus qui vont naître avec cette femelle. Donc, j'en dis pas plus, mais ça va être toute l'intrigue du.
Mais l'histoire est très belle d'ailleurs.
Du livre. Oui, ça peut être très poétique.
Mais tout à
par
fait.
Moment.
Parce que je pense que là, peut-être que les auditeurs se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette
horreur? Oui, c'est vrai,
monstrueux, c'est des cannibales. Alors, oui, mais non. Un peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il se passe quand même autre chose. Il y a effectivement des sentiments, il y a une certaine profondeur, il y a une vraie histoire avec des personnages quand même qui sont fouillés, qui sont intéressants.
Donc, et c'est pour ça que je dis souvent...
C'est pas seulement un manifeste.
Non, pas du tout. Il faut passer les 30 premières pages qui peuvent être un peu dures, mais après, on retrouve...
Donc, vous commencez à lire à partir de la page 35 et c'est bon.
Bah non, parce que du coup, on n'a pas toutes les explications.
Un petit résumé.
Non, mais voilà, il faut avoir le cœur bien accroché, mais l'histoire reste très intéressante.
Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça n'était pas un roman à mettre complètement entre toutes les mains.
Ouais.
Donc, voilà, je pense que vous nous avez présenté deux romans très forts qui fouillent l'âme humaine jusqu'à l'os. Je crois, on peut le dire. Un peu comme le roman de Cécile Coulon, Une bête au paradis. Mmh. Il est question de bêtes et d'humains, mais d'une manière tout à fait différente, même si, comme l'expliquera tout à l'heure l'auteur, on ne sait pas trop qui est la bête. Et pour vous donner un petit avant-goût et vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous lire un extrait. Ça n'a rien d'un abattoir. Je vais vous lire un bref extrait du tout début du roman de Cécile Coulon, Une bête au paradis. La fosse est vide, mais en son centre gît un bouquet de ces fleurs qui bordent le ruban de goudron menant au paradis. Certaines ont déjà fané. D'autres, comme Blanche, sont sur le point de perdre leur dernière couleur. C'est un petit bouquet de campagne dans un grand cercle terreux. Les épaules chargées d'un gilet rouge, d'un rouge plus vif que celui des feuilles mortes sous l'arbre à pendaison, elle bascule, s'agenouille devant ce petit bouquet qu'un enfant aurait pu composer pour sa première communion, et en retire les tiges brunes qu'elle jette, d'un geste étonnamment vif, presque violent. Puis, elle sort de la poche de ce gilet rouge, d'un rouge plus vif que le sang du paradis, quelques fleurs encore jeunes, sur lesquelles elle souffle très doucement, avant de les déposer avec les autres. Elle se tient là, prostrée devant ce petit bouquet de campagne, si joli, au milieu de cette fosse que sa grand-mère, Émilienne, a fait creuser pour les cochons. C'était il y a longtemps. Elle se souvient de tout. Car si aucun animal n'habite plus cette arène de planches et de terre, une bête s'y recueille chaque matin. Blanche. Oui, c'est ça. Alors, ça donne, ça, j'espère que ça donne envie aux auditeurs. Blanche, c'est un personnage. Le paradis, c'est le nom de la ferme. Et je ne vous en dis pas plus parce que, voilà, j'espère que vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, nous allons faire durer encore un petit peu le suspense puisqu'avant l'interview que nous attendons tous, voici le deuxième morceau qui a accompagné l'écriture de Cécile Coulon. C'est un extrait des Indes galantes de Rameau, la danse du calumet de la paix. Thank you. Une musique lancinante et puissante, très inspirante aussi, qui a soutenu les lignes du dernier roman de Cécile Coulon, un peu comme une basse continue. Donc j'ai eu le plaisir d'interviewer Cécile Coulon samedi 7 décembre à l'occasion de son passage à la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, où elle venait rencontrer ses lecteurs. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview pour l'émission Les Voix du Livre sur BAC FM dans les murs de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes romancière, nouvelliste et poétesse, ce qui est assez rare d'avoir les trois cordes donc. Depuis très longtemps en plus, puisque malgré votre âge plutôt jeune, vous avez commencé à publier à l'âge de 17 ans, votre premier roman, Le voleur de vie. Et j'ai l'impression que vous vivez la vôtre très intensément, intellectuellement, mais aussi physiquement, puisque vous êtes, je crois, une grande amatrice de marathon. Mmh. Et le sport est d'ailleurs l'un des aspects de votre thèse, Le sport et le corps, dans la littérature française contemporaine, que vous avez soutenue en 2016.
Je ne l'ai pas soutenue encore.
Ah, vous ne l'avez pas soutenue?
Je l'ai terminée, mais je ne l'ai pas encore soutenue.
D'accord, donc que vous avez terminée en 2016,
oui, voilà.
Et que vous allez bientôt soutenir. Et c'est assez inhabituel. Donc je signale aussi que vous avez écrit donc un éloge du running
qui va avec ce thème là quoi.
Exactement. Souvent on a l'image de l'auteur comme un cerveau, mais vous avez le corps qui va avec le cerveau. Mais vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de votre dernier roman, Une bête au paradis, qui a déjà obtenu le prix littéraire du monde. Donc je pense que c'est une belle récompense pour un texte extrêmement fort qui se déroule à la campagne. Alors, c'est pas la première fois que vous choisissez un tel décor. Vous avez même écrit un essai que j'ai lu avec intérêt dans la collection du Parlement des Invisibles, Les grandes villes n'existent pas. Alors évidemment, nous sommes ici dans la Nièvre, forcément ça nous parle, c'est un département rural et je voulais commencer par vous demander, la ruralité joue quand même un rôle essentiel dans certains de vos romans, pourquoi cet intérêt pour un thème souvent délaissé par les auteurs contemporains ?
Peut-être justement parce que le thème est délaissé, ou parce que la géographie, cette géographie-là est délaissée, alors que moi c'est la mienne. Je suis née dans un petit village, je ne suis pas fille d'agricultrice, mais mes grands-parents l'étaient un peu en tout cas, et moi je n'ai connu que ça, et je m'y suis sentie très bien. Donc dès le départ, j'avais un vrai souci à voir mes camarades qui avaient besoin de partir, alors que moi je voulais rester, que plus les horizons sont infinis et larges, plus je suis rassurée, alors que les grandes villes ne me rassurent pas du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, mes histoires se passent dans ces lieux-là, parce que j'ai de la place. J'ai de la place et que je trouve ça intéressant, et parce qu'il faut aussi les remettre un petit peu au centre de la scène littéraire.
Surtout qu'elles occupent peut-être plus d'espace géographiquement que les villes. Vous êtes, je crois, une amatrice également de Stephen King,
oui.
Qui situe un certain nombre de ses romans et de ses nouvelles dans la ruralité états-unienne. Est-ce que c'est aussi une influence pour vous ?
Je pense que ça a dû jouer, parce que vraiment j'ai appris à lire moi avec Stephen King quand j'étais assez jeune, et donc finalement les textes qui m'ont le plus marqué dans mon enfance, c'était des textes qui ne se déroulaient pas dans les grandes villes. Et parfois même à la montagne, au bord des lacs et compagnie. Et ça me paraissait tout à fait normal. Or, quand j'ai essayé de m'intéresser au collège ou au lycée à la littérature française, je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément le cas. C'était pas si évident que ça de trouver des textes. Alors, je suis allée un peu du côté de l'Amérique, c'est vrai, au départ. Et puis après, j'ai découvert en France Marilène Lafont, Pierre Bergoglio, Franck Bouys, Pierre Michon, des gens comme ça. Et ça a été une vraie respiration pour moi.
Vous vous êtes sentie chez vous?
Ouais, je me suis sentie chez moi et pas toute seule aussi.
Oui, ça c'est aussi important d'être bien accompagnée.
Ouais.
Dans vos romans, et en particulier dans celui-ci, les émotions que vous dépeignez sont souvent assez violentes et allient des images de mort à des images d'amour. Je pense que je ne vais pas trop déflorer le roman, mais la scène d'amour pendant la mise à mort du cochon, c'est quand même c'est assez fort. Est-ce que cette vision de l'amour correspond à la vôtre, ou vous l'avez choisie pour sa charge émotionnelle et dramatique dans ce roman?
Je pense que dans ce roman, il y a deux choses. Déjà, cette scène qui ouvre le livre, en fait, est aussi une scène tout à fait évidente, parce que ce moment où on égorge le cochon, c'est aussi le seul moment où les deux protagonistes peuvent être enfin seuls. Donc ça va ensemble. Et c'est pas un moment, on va dire, ténébreux ou tragique, en fait. Hein. C'est un vrai moment d'amour. Sauf que ça se passe pendant un moment de mise à mort. Voilà. Mais il a fallu une mise à mort pour qu'on puisse se permettre d'être amoureux. Alors, je crois pas avoir cette vision de l'amour. Je sais pas si j'ai une vision de l'amour. Je pense que selon les gens qu'on rencontre et selon la disponibilité qu'on a au moment où on rencontre les gens, on n'est pas amoureux de la même manière et on n'aime pas de la même façon. Donc j'arrive pas à avoir de vision. Moi, j'ai tendance à penser que... je pense que ça peut paraître pessimiste, mais ça ne l'est pas. Mais je pense que aimer quelqu'un, c'est quand ses défauts pèsent moins lourd que ses qualités, à nos yeux. Je suis pas sûre qu'aimer,
c'est plutôt beau comme définition.
Bah, j'espère que c'est beau, mais c'est, pour moi, c'est pas du tout l'idée que c'est idéal et que une personne tout d'un coup nous ressemble absolument et n'aurait aucun défaut et que tout serait d'une lisse et étincelant. J'y crois pas du tout à ça. Je pense même que c'est une vision de conte de fées qui a fait beaucoup de mal aux relations amoureuses et sans doute beaucoup de mal aux jeunes filles, aux jeunes garçons quand ils ont commencé à s'aimer, je pense. Mais dans ce livre-là, ce que j'avais envie de montrer, c'est que ces personnages-là sont de toute façon liés à la vie des animaux et à la mort des animaux. Donc ils doivent la supporter, ils doivent d'ailleurs en être les bourreaux.
Oui, parce qu'on voit souvent des animaux morts dans votre roman.
Tout le temps, tous les chapitres.
Voilà.
Tout le temps.
On ne déflorera pas le reste du texte. Mais d'ailleurs, justement, dans cet univers où on donne quand même pas mal la mort, c'est un roman qui est en huis clos. Je vous avais entendu dire que vous étiez donné cette contrainte d'écriture. Pourquoi avoir choisi le huis clos? C'est pour la force dramatique? C'est pour une autre raison?
Alors, d'une part, parce qu'en tant que lectrice, c'est un genre que j'aime au cinéma et en littérature. Et que j'avais envie de m'y essayer. Ensuite, parce que en tant qu'autrice, il y avait un défi, c'est comment on fait pour garder un lecteur tout à fait éveillé et alerte, alors que les personnages ne vont jamais sortir d'un lieu. Voilà, du suspense. C'est un défi d'écriture que j'ai essayé de relever avec ce livre-là.
Mais c'est un défi que vous avez relevé avec brio, parce qu'en effet, les personnages ne sortent pas beaucoup, ou quand ils sortent, c'est un peu dangereux de sortir de cet endroit. Alors, justement, dans Une bête au paradis, vous construisez un jeu du chat et de la souris, où la souris n'est pas toujours celle qu'on croit.
Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'ai compris tout à l'heure avec l'interview que vous avez donnée avec Wilfried Sejo, le directeur de la librairie, que vous étiez attaché à la construction. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de construction de chasseur-chassé?
C'est vraiment ce qui a été le plus travaillé dans le livre, c'était la construction, c'était le découpage, c'était le rognage aussi des chapitres, parce que pour moi, j'avais envie et besoin que le lecteur, une fois pris dans le paradis avec ses autres personnages, il ne puisse plus en sortir, qu'il soit pris dans la toile du paradis d'une certaine façon. Et donc, on a passé un très long moment avec mon éditrice, après le premier jet et le premier manuscrit, à réécrire, mais sans rien toucher au style. C'était vraiment redécouper les chapitres, enlever certains passages, en mettre un peu plus à d'autres endroits, travailler certains personnages plus que d'autres, et ça, c'est ce qui a pris le plus de place. Complètement, oui.
Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, est fondamental et essentiel.
Ouais. Dans ce livre-là, sans ce travail-là, il n'existe pas, ce livre-là.
Effectivement, c'est donc plus que fondamental. Alors c'est amusant que vous parliez de toile, parce que votre héroïne, je parle de Blanche, vous voyez ce que je vais vous dire.
Oui, je vous vois venir, là, ouais, oui, bien sûr.
A un rapport particulier aux araignées. Est-ce que, pour vous, c'était une espèce de mise en abîme de cette image de la toile et cette manière de réagir?
Il y avait l'image de la toile dans laquelle tous les personnages sont pris à un moment ou à un autre, et certains se débattent et d'autres non. Et puis il y avait aussi l'idée que Blanche, ce rapport particulier qu'elle a avec cet animal, c'est aussi un rapport de peur qu'on transforme en force. C'est un animal qui lui fait peur toute son enfance, toute son adolescence, et puis d'un coup elle devient celle qui prend le contrôle et qui prend le pouvoir, et c'est extrêmement important parce que c'est à ce moment-là qu'elle devient une vraie héroïne, et presque une héroïne de tragédie grecque.
Effectivement, il y a un côté très très tragique. Je ne dirai pas pourquoi, je laisse le plaisir au lecteur de le découvrir, mais si on aime les tragédies grecques où l'aveuglement tragique conduit à faire ce qu'on a essayé d'éviter de faire, et c'est précisément parce qu'on l'évite qu'on se retrouve dedans, vous êtes complètement dans la tragédie grecque. Justement, alors là, c'est peut-être pas tragique, mais vous avez, pour l'émission Les Pieds sur Scène, vous aviez dévoilé une anecdote forte, une sorte de péché originel de votre jeunesse. La virulence de cet événement nourrit-elle votre écriture, par exemple dans ce roman ou dans d'autres?
Je ne sais pas si la violence, surtout de cet événement, a nourri mon... Enfin, la violence, c'était un événement de, comment dire, d'adolescence qui, d'ailleurs, en le racontant, a été beaucoup moins fort que la place qu'il tenait pour moi. Et j'étais très contente d'en parler de ce point de vue-là, mais je suis pas sûre que cet événement ait eu un très très gros impact sur moi. Ça m'a évidemment fait extrêmement réfléchir aux questions de pouvoir, de rapport de force, et de à quel point ces rapports de force se jouent au collège. En fait, moi j'ai toujours considéré que ce moment de la vie du collège, c'était sans doute la pire jungle qui existait. Vraiment, enfin, j'en parle avec beaucoup de gens de ça, de comment ils étaient entre 11 et 14 ans. Et en fait, c'est le moment où on se transforme et c'est le moment où on fait des espèces de choix complètement inconscients et où l'accès à la violence est le plus direct et presque le plus nécessaire. Parce qu'on n'est que ça à cet âge-là. Enfin, on ne contrôle rien et on veut tout contrôler. Et c'est ce qui fait aussi...
D'où les dérapages.
D'où les dérapages, absolument. Absolument.
Mais est-ce que, justement, dans votre écriture, cette violence, vous l'utilisez ou c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, où vous allez la chercher ailleurs, en fait?
Non, je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a l'imagination qui prend un peu le pas sur la réalité, évidemment, ou qui vient essayer d'expliquer la réalité. Et puis après, je sais pas si je suis quelqu'un de consciemment ou de foncièrement violent. Non mais ça peut être dans les mots, ça peut être dans la façon d'être, ça peut être dans le silence. C'est pas qu'une question d'être violent physiquement.
C'est vrai que le silence peut être très violent.
Mais par contre, je pense que je suis têtue, ce qui est en soi une forme de violence quand on l'est de manière un peu drastique.
Alors oui, effectivement, c'est une violence inattendue.
Oui, mais c'en est une.
Oui. Vous avez intitulé ce roman « Une bête au paradis ». Est-ce que c'est un petit peu en lien avec une rose au paradis ou est-ce que
non,
pas du tout?
Rien. Non, une bête au paradis, déjà, on a mis du temps à trouver ce titre. C'est-à-dire que ça a été la dernière chose sur laquelle on a travaillé, c'était trouver le titre. Ça a mis du temps. Une bête au paradis, moi j'avais envie que le lecteur se pose la question de qui est cette bête au paradis. Et est-ce qu'à la fin du livre, finalement, c'est pas le lecteur lui-même, la bête curieuse qui vient voir ce qui se passe au paradis et qui se retrouve piégée avec les autres?
Le lecteur est toujours une bête curieuse,
toujours.
Un peu.
Heureusement d'ailleurs.
Un peu voyeuse.
Oui, complètement.
On va dire. Et j'avais aussi une autre question un peu différente. Je vous ai entendu dire que vous vous faisiez tatouer une ou deux fois par roman.
Oui.
Et je voulais simplement vous demander quel tatouage vous a inspiré l'écriture de ce roman.
Alors,
si vous pouvez nous le dire,
bien
ou pas.
Sûr. Je me suis fait tatouer le dernier que j'ai fait, donc qui est en lien avec ce roman, c'est un moine martyr qui continue à prier alors qu'il a le corps transpercé de flèches.
Un peu Saint Sébastien, mais revisité.
Ouais, Saint Sébastien, mais sans le côté un peu sexy.
Ah oui.
Saint Sébastien, voilà, le mien est totalement habillé. Donc je crois que j'ai fait ça et j'ai fait sur les épaules deux petits livres ouverts avec des fleurs qui en sortent.
Et c'est en lien avec ce...
Ouais.
Ah oui, donc la quand vous... D'ailleurs, c'est le passage que vous avez lu tout à l'heure, quand vous avez décrit la route...
Tout à fait.
Est-ce que la musique joue un rôle dans votre écriture?
Oui, parce que j'écris très souvent en musique. Même dans le premier roman qui était Messier ou des enfants sages, j'ai une playlist qui va avec le texte. Pour Une bête au paradis, il y a un savant mélange de Jean Ferrat et de Johnny Cash.
Ouais. C'est pourtant pas très...
Rien à voir, hein, mais pourtant c'est ce qui a joué. Et puis en musique classique, j'écoutais Les Indes Galantes de Rameau, beaucoup. Et toute la bande originale d'un film qui s'appelle Manchester by the Sea, que j'adore, qui est venue rehausser tout ça. Donc alors, oui, j'écris toujours en musique.
On est vraiment dans l'éclectisme.
Mais j'ai pas de goût très particulier en musique. J'ai plein de choses qui me plaisent et qui se réunissent dans mes livres, en fait.
Et vous écrivez en musique, vous choisissez d'abord la musique ou bien c'est...
Je choisis parce qu'elle va donner un ton et elle va donner une consistance, une couleur aussi à mon écriture, un rythme très différent. C'est un peu mon dopage personnel, la musique en écrivant.
Ça va.
Ça va, je suis bien d'accord.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je vais juste dire que c'était la 57e interview que vous faisiez pour la promotion de ce roman. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté quand même d'en faire une dernière
plaisir.
Pour nous.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci à vous.
Ben voilà, c'était notre petit cadeau pour les auditeurs, cette très belle rencontre avec Cécile Coulon. Eh bien, une suggestion de plus, à glisser au pied du sapin, une bête au paradis. Et toute l'équipe des Voix du Livre vous donne rendez-vous le mois prochain avec quelques surprises. Nous recevrons en effet Pascal Rose, prix Goncourt 96, qui publie à la rentrée de janvier « La belle Hélène » aux éditions Stock. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de Bac FM.